Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hoc fecit initium signorum Iesus. Et donc c'est ainsi que se fit le premier des signes de Jésus à Cana en Galilée. Ce signe ou ce miracle, hein, je traduis ici littéralement l'écriture sainte, le texte de l'apôtre Saint Jean, signum semeion en grec, ce signe qui est donc le premier des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le commencement, nous dit explicitement donc l'apôtre Saint Jean. C'est très important parce que ça disqualifie tous les miracles inventés dans ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, des miracles souvent complètement inutiles, où on rajoute du merveilleux, ce qu'aiment certaines personnes, n'est-ce pas, toutes les pseudo-révélations sur les évangiles, sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que l'Esprit Saint nous a tout donné à travers les quatre évangélistes. C'est quand même déjà pas mal d'avoir quatre témoins directs ou quasi directs de la vie de notre Seigneur qui nous ont raconté ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Donc ce n'est pas la peine de chercher dans des révélations obscures qui ne vont absolument rien apporter, sinon de la sensiblerie et une vision trop humaine même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc vont détourner les gens de la révélation divine. Donc cette révélation qui est contenue dans les Saintes Écritures, c'est ma première remarque. Maintenant, revenons à ce terme de signe, signum. Au sens classique du terme, le signe, c'est une marque d'identification. Par exemple, les enseignes, et qui existent encore, hein, pour les pharmacies, ou autres métiers, il y a des enseignes particulières. C'était beaucoup plus développé, bien sûr, autrefois, mais donc c'est d'abord une marque d'identification. À quoi correspond ce mot latin signum ou semeion en grec? Et même au niveau surnaturel, dans l'Ancien Testament par exemple, quand Dieu demande cette cérémonie de la circoncision, c'est considéré comme un signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc parce que c'est une marque d'identification finalement de cette appartenance à Dieu. De même, bien entendu, les sacrements au sens surnaturel sont aussi des signes, hein, des signes sensibles de la grâce qui va être donnée. Deuxièmement, le sens de ce mot signe, eh bien, ça sera un trait de mœurs ou de caractère d'une personne. Et enfin, le signe correspond à la signature. On reconnaît qu'une missive, une lettre, vient du roi parce qu'elle porte son sceau, sa marque, son signe, sa signature. Et nous allons retrouver tous ces éléments dans les signes surnaturels que sont les miracles. Au sens proprement religieux, le signe, en tant que miracle, justement, est un prodige qui est reconnaissable et qui fournit une preuve pour tous. Le signe, comme le signe dans l'ordre naturel ou de façon classique, le signe religieux, le signe miraculeux, va identifier le Messie comme le symbole des pharmacies, bien identifier une pharmacie, donc une croix verte, etc., comme le symbole, évidemment, d'autres symboles, on va dire, plus négatifs, n'est-ce pas, comme ceux des francs-maçons. On peut les identifier. Eh bien, les signes que sont les miracles vont permettre d'identifier le Messie. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, pendant le temps de l'Avent, qu'est-ce que nous rappelions ? nous rappelions ces paroles de Saint Jean-Baptiste en prison, qui dit à ses disciples d'interroger le Messie, d'interroger notre Seigneur Jésus-Christ, pour lui demander, eh bien, s'il est vraiment le Messie. Bien sûr, Saint Jean-Baptiste, il le sait. C'est pour que ses disciples ne soient plus ses disciples, mais deviennent les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était son but. Et notre Seigneur lui répond à ses disciples, « Renunciate, redites à Jean ce que vous avez vu. » Et notre Seigneur énumère. Vous avez vu les boiteux marcher, les aveugles voir, etc. Notre Seigneur, en réalité, cite le prophète Isaïe. Et donc, on a ces signes, ces miracles que fait notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous permettent de l'identifier pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Messie, parce que ce qu'il fait correspond aux prophéties. Deuxièmement, les signes caractérisent la personne, le caractère, les mœurs, donc comme d'ailleurs de toute manière les signes qu'on va attribuer aux différents métiers. On représente les forgerons avec une enclume et un marteau parce que ce sont les instruments principaux qu'il va utiliser, n'est-ce pas? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est identifié par ces signes que sont les miracles, mais en plus les miracles vont nous montrer les caractéristiques divines. Donc la bonté, la puissance divine, la providence divine sont visibles à travers les miracles. Ce n'est pas rien. Le premier miracle que fait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas le plus grand miracle. Il ne ressuscite pas un mort comme il le fera à Naïm ou encore à Béthanie où il ressuscite Lazare. Il ne calme pas une tempête terrible. Non, c'est un miracle par rapport à des choses inanimées et dans un cadre qui pourra paraître aux plus rigoristes des chrétiens très futile. Dans le cadre d'un mariage, donc ceux qui seraient contre le mariage, et malheureusement il en existe, ça pose un problème au niveau de la foi catholique. Dans le cadre d'un mariage et des réjouissances autour de ce mariage, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il change l'eau en vin. Bien sûr, beaucoup utilisent cela pour rire aujourd'hui, et cela, bien sûr, est choquant pour les chrétiens que nous sommes, parce que c'est un fait qui est tout à fait sérieux et qui est important. C'est important parce que derrière cette réalité de l'eau qui est changée en vin, il y a justement ce signe, le fait que cela témoigne de la puissance divine, de la bonté divine, de la providence divine qui s'occupe des hommes. Et c'est la marque précise du Messie, du Verbe incarné. Donc vous le savez, notre Seigneur est invité aux noces parce que sa mère, la très sainte Vierge Marie, est invitée. Ses disciples, ceux qu'il avait déjà autour de lui, sont invités également. Et il n'y a plus de vin. Ne nous fions pas à la parole qu'il y a à la fin, hein, à savoir, de façon générale, de façon habituelle, on sert le bon vin en premier, et quand les gens sont ivres, on sert le mauvais vin. Il ne faudrait pas en conclure qu'à ce moment-là, les gens étaient ivres. Mais certainement qu'ils ont eu un problème dans le calcul de l'approvisionnement, vous savez comme c'est en Orient, et ce côté très accueillant, etc. Ils avaient prévu une quantité, et puis tu peux venir, et puis ils se retrouvent avec plus de monde qu'il n'y a de vin, et peut-être même dès le début du repas, la très sainte Vierge Marie, qui a l'œil sur tout, qui est une bonne mère de famille, qui regarde, elle constate qu'ils n'ont plus de vin. Et elle prévient notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur fait ce miracle. Alors ce qui est intéressant, ce sont ces six grandes jarres qui étaient utilisées pour les purifications. On ne peut pas dire que c'est de l'eau qui se colore ou je ne sais trop quoi, parce que ce sont des jarres qui étaient utilisées uniquement pour mettre de l'eau. Jamais elles n'ont contenu autre chose que de l'eau. Et environ 40 litres par jarre, hein, si on calcule, donc ça fait 240 litres de vin quand même. Je vous laisserai calculer le nombre d'invités potentiels, c'est quand même pas mal. Et notre Seigneur fait le miracle à distance. Il ne bouge pas de la table. Hein. Il reste tranquillement à table. Il dit simplement, vous remplissez ces grandes jarres d'eau et vous puisez dedans et vous portez donc au maître de cérémonie, donc à celui qui s'occupe du repas. Donc, entre-temps, ben, l'eau est évidemment devenue du vin. Et pas n'importe quel vin, du bon vin. Donc, c'est pas de l'eau avec du sucre ou je ne sais pas quoi, non. Il y a donc notre Seigneur Jésus-Christ qui il ne fait pas les choses à moitié. Donc, ça paraît quand même aux esprits, comme je vous disais, rigoristes, tout ça. Notre Seigneur, ce qu'il fait comme premier miracle, c'est donner du vin à des gens qui n'en ont plus, alors qu'ils ont mal calculé leur coût. Donc on voit non seulement bien sûr la puissance divine, mais on voit aussi la bonté divine. C'est pas uniquement pour faire plaisir à la Sainte Vierge, sa mère, qu'il fait cela. C'est pour montrer sa puissance, évidemment, mais c'est aussi pour montrer la bonté divine qui s'étend même aux petites choses de notre vie. Même d'ailleurs aux choses qui ne sont pas absolument nécessaires, parce qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir du vin. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ leur a donné du vin. Donc, nous devons bien sûr en tirer des leçons. Mais ici, par rapport à ce signe en tant que tel, le miracle est un signe de quoi ? De la bonté divine, de la puissance divine. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire, il peut même changer l'eau en vin, il peut multiplier les pains, il peut faire en sorte qu'il y ait des pêches miraculeuses, il peut calmer la tempête. Il peut guérir les malades, chasser les démons, faire que voit celui qui n'a jamais vu de sa vie, donc l'aveugle-né, que les paralytiques marchent. Il peut ressusciter les morts et il peut même, le plus grand de ses miracles, bien sûr, se ressusciter lui-même. Donc, mes bien chers frères, nous avons ici les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ et ces miracles vont authentifier le Messie. Je vous le disais, comme le sceau du roi, la signature du roi montre que la lettre vient bien de lui, que l'ordre vient bien de lui. Les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ authentifient le Messie. C'est pourquoi termine l'évangile d'aujourd'hui, ses disciples crurent en lui. Ça veut pas dire nécessairement, une fois de plus, qu'ils ne croyaient pas en lui avant. Mais ça conforte leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Les miracles donc légitiment l'adhésion à sa personne, légitiment l'adhésion à sa doctrine. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins mes faits et gestes. Croyez les signes que je fais. Voilà ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens. Ce qui signifie que si vous ne croyez pas mes paroles, eh bien, vous n'êtes pas dans le vrai. Parce que tout ce que je fais, je ne peux le faire que parce que Dieu est derrière moi. Que parce que le Père, justement, permet et veut que je fasse ces miracles. Notre Seigneur, bien sûr, fait les miracles par sa propre puissance et révèle en même temps le mystère de la Sainte Trinité, à savoir le mystère d'un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Il fait ses miracles par sa propre puissance, mais par délicatesse pour ces esprits durs qu'étaient les pharisiens, pour les amener justement à cette adhésion. Il parle du Père et il les met devant cette logique. De même, le fameux aveugle-né. Et là, c'est très intéressant, cet épisode de l'aveugle-né, parce que nous avons tout le déroulement, nous avons l'enquête des pharisiens, et la simplicité de cet aveugle de naissance qui voit comme ça, alors qu'il n'a jamais vu de sa vie, et donc il y avait un truc qui fonctionnait pas. Tout ce qu'il dit, cet aveugle de naissance, c'est que moi je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là, et si Jésus le fait, c'est que Dieu est avec lui. Voilà. Ça, c'est la simplicité par rapport à ces signes. Mais ceux qui ne veulent pas croire, ils trouveront toujours quelque chose. Ils accusaient notre Seigneur de chasser les démons au nom des démons. Ce qui est complètement contradictoire, cela n'a absolument aucun sens, qu'il guérissait pareil par le moyen des démons. Ce qui, notons-le, n'est pas impossible, parce que le démon est capable de beaucoup de prodiges. Cependant, il y a des choses qui échappent à la puissance du démon. D'une part, le démon ne fait pas ce qu'il veut. Dieu est toujours le maître, donc il permet que le démon fasse éventuellement des prodiges. Et d'autre part, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ va à l'encontre du démon. Il essaie d'arracher les âmes au démon, au péché. Donc, on a vraiment une légitimité qui est établie par les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Les miracles sont donc une preuve de la divinité de notre Seigneur. C'est important, mes bien chers frères, parce que c'est une preuve, ce qu'on appelle, ce que les théologiens appellent, un argument de crédibilité. La foi, c'est une adhésion ferme à la doctrine, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement de l'Église qu'il a fondée, bien entendu. C'est une adhésion qui n'est pas irrationnelle, non seulement dans le sens que l'adhésion de notre foi, les vérités de foi, ne sont pas contre la raison, même si elles peuvent être au-delà de la raison. Les mystères de foi, comme le mystère de la Sainte Trinité, comment un peut être trois, c'est au-delà de la raison, ce n'est pas contre la raison, parce que c'est une seule nature qui subsiste en trois personnes, et on ne peut pas justement limiter Dieu. De même, le mystère de l'incarnation, comment Dieu peut se faire homme ? Il est Dieu. Donc, rien ne l'empêche dans sa puissance d'assumer une nature humaine. Donc le premier élément de la foi, c'est que la foi n'est jamais contre la raison, mais au-dessus de la raison. D'autre part, la foi est même raisonnable, c'est-à-dire qu'il est raisonnable de croire. Et pourquoi il est raisonnable de croire? Justement en raison des arguments de crédibilité. Et parmi ces arguments de crédibilité, il y a les miracles. Les miracles nous permettent sont des signes, justement, de la divinité de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, de la divinité de sa mission. Les miracles sont des signes de la divinité de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, puisque les miracles vont se prolonger, non seulement donc après que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, les miracles vont continuer dans la Sainte Église. Et encore aujourd'hui, il y en a qui sont attestés. Et comme à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui sont témoins de la résurrection de Lazare, témoins, vous vous imaginez un peu, vous êtes devant un tombeau qui est fermé depuis 4 jours, ça sent mauvais parce que le corps est en train de se décomposer, on ouvre et tout le monde se bouche le nez, non, arrêtez, il y a les mouches, et notre Seigneur dit « Lazare, sort dehors ». Et Lazare, il était un peu engoncé avec tous les linges qu'il mettait, et il sort comme ça. Des témoins qui ont vu ça, ils voulaient encore tuer notre Seigneur Jésus-Christ après. Ils ne voulaient pas le croire. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui sont témoins de miracles, même si les miracles, notamment à Lourdes, sont attestés avec une rigueur scientifique importante, même si on a ce miracle permanent et il sera exposé cette année, le Saint-Suaire de Turin, donc ce témoignage du miracle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien à faire. Hein. Ceux qui ne veulent pas croire ne croiront pas et ils ne croiront jamais. Parce qu'ils ne veulent pas de ces conséquences, notamment dans l'ordre moral, dans l'adhésion justement à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Église catholique. Donc, chers frères, nous devons avoir une attitude saine, une attitude juste vis-à-vis des miracles. Ce à quoi l'Église, d'ailleurs, nous oblige. Je me permets de vous rappeler ce que le pape Saint Pie X nous demande, nous, en tant que prêtres, justement avant notre ordination, avant de recevoir les ordres majeurs et même dans d'autres circonstances, ce qui est dit dans le serment anti-moderniste. Les modernistes qui n'ont de cesse pratiquement de nier les vrais miracles ou de les atténuer. On peut parler, bien sûr, de l'attitude assez ambiguë du Vatican d'aujourd'hui vis-à-vis du Saint-Suaire de Turin. L'attitude mauvaise de Jean-Paul II, donc, par rapport au soi-disant test du carbone 14, etc. Ce que l'Église nous demande de professer, j'admets et reconnais les preuves extérieures de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des dignes et très certains, comme dignes et qui nous montrent l'origine divine de la révélation de la religion chrétienne. Et je tiens qu'ils sont adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même de ceux d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que les modernistes vont expurger les évangiles de tout ce côté merveilleux, miraculeux. Bien sûr, il faut distinguer, je vous le disais au début, ce qui n'est pas dans les évangiles et ce qui est très douteux, ce qui est donc dans ces fameux apocryphes. Mais ce qui est dans les évangiles, ça vient du Saint-Esprit. Les apôtres en ont été les témoins. Les apôtres ont été témoins, Saint Jean a été témoin de cette eau qui a été changée en vin. Ils ont été témoins de la résurrection de Lazare, ils ont été témoins des deux multiplications des pains, etc. Donc, nous devons les croire. Nous devons croire en notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons donc avoir confiance en lui et nous devons lui obéir. Ce sont les conséquences aussi de ce miracle pour notre vie spirituelle et des noces de Cana, à savoir croire en lui parce que c'est un signe certain de sa divinité, avoir confiance dans le bon Dieu, dans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que même pour des besoins qui pourront paraître petits, notre Seigneur Jésus-Christ peut faire des miracles, comme il le fait ici en changeant l'eau en vin. Et enfin, il y a aussi cette leçon d'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Je voudrais terminer par ça. C'est cette semaine, enfin la semaine dernière, nous avions la fête de Saint-Maur qui marche sur l'eau pour aller sauver le petit Placide par obéissance, parce qu'il obéit à Saint-Benoît et il réfléchit tellement pas que dans son obéissance, il marche sur l'eau, tire le petit Placide, revient sur la berge, pouf. Et après, il se dit, ah ben tiens, il y avait de l'eau. Donc, l'obéissance est capable de faire des miracles. Et tous ses serviteurs, ils se sont pas posés de questions. La Sainte Vierge leur dit, faites ce qu'il vous dira. Notre Seigneur leur dit, vous remplissez ces cruches d'eau, vous puisez, vous donnez au maître du festin, il n'a qu'à goûter et il aura le meilleur vin qui a jamais été produit sur terre, puisque c'est celui qui a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, on a cette obéissance, sans discuter des serviteurs, eh bien, l'obéissance est capable de ces miracles. Donc voilà, mes chers frères, les leçons que nous devons en tirer, cela doit renforcer notre foi en notre Seigneur, notre confiance en lui et bien sûr notre obéissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.